BW. Vue d'Allemagne.
La France veut attirer les étudiants étrangers sur son sol, mais prévoit dans la foulée une hausse drastique des frais d'inscription. Nous irons voir du côté de l'Allemagne, où des mesures similaires ont entraîné une baisse du nombre d'étudiants dans le land du Bade-Württemberg. Le mois de la conscience noire s'achève au Brésil. En deuxième partie de ce magazine, notre correspondante nous emmène à la rencontre de créateurs et d'artistes lors d'une foire dédiée à l'entrepreneuriat noir. Un entrepreneuriat d'ailleurs très féminin. Vue d'Allemagne, c'est maintenant que ça commence. Willkommen, bienvenue. Bienvenue en France, c'est justement le nom de la nouvelle stratégie d'attractivité des étudiants internationaux présentée la semaine dernière par le gouvernement français. Une stratégie qui vise à accueillir 500 000 d'étudiants étrangers d'ici à 2027 et à favoriser les échanges universitaires. Simplification des modalités d'accueil, notamment les procédures de visa, accompagnement personnalisé par un référent ou encore une meilleure accessibilité au logement pour les étudiants étrangers. Les premières mesures annoncées par Édouard Philippe semblaient positives. Et puis, patatras, est arrivée la question du financement.
Les étudiants internationaux, qui ne résident pas dans l'espace économique européen, paieront des frais d'inscription correspondant approximativement au tiers du coût réel de leur formation. Ce qui signifie en pratique que la collectivité nationale prendra encore à sa charge les deux tiers du coût de leurs études.
Une inscription en licence à partir de la rentrée prochaine coûtera donc 2 770 € par an contre 170 € aujourd'hui. Et il faudra débourser 3 770 € pour suivre un master ou un doctorat au lieu de respectivement 243 et 380 €. Alors certes, le nombre de bourses va augmenter, mais l'annonce de cette nouvelle politique a suscité un tollé, surtout dans les pays dont viennent près de la moitié des étudiants étrangers des campus français, ceux de l'Afrique francophone. Ibou Diop, chercheur d'origine sénégalaise installé en Allemagne, affiche son incompréhension.
Aujourd'hui encore, on perçoit la présence de la France dans nos pays. Et si on nous dit que vous n'êtes pas né chez nous, donc vous payez plus parce que tout simplement vos études nous coûtent plus que ce que vous nous payez, je pense qu'on est dans une relation de chiffres, on est dans une relation qui n'a absolument, ne reflète pas la réalité des relations que nous avons avec la France. Revenons sur le cours de l'histoire et nous comprendrons pourquoi aujourd'hui les jeunes veulent aller en France pour faire là-bas leurs études. Maintenant, la France ne peut pas revenir pour nous dire que oui, le coût est très élevé pour vous autres, mais pourquoi ces jeunes-là parlent la langue française, pourquoi ils veulent venir à la France? Nous avons une culture ensemble, et si nous avons la francophonie et tout ce qui tourne autour, il faudrait développer d'autres mécanismes qui puissent aider ces jeunes-là à venir faire leurs études en France.
Ibou Diop a été un de ces étudiants sénégalais qui sont passés par les bancs d'une université française au début des années 2000. Mais à l'époque déjà, le coût des études était bien trop élevé.
Je partageais une chambre avec un ami. On payait 675 €. C'était une toute petite chambre de 13 m² partagée à deux. La vie courante comme ça était trop chère pour moi, insoutenable. Donc on était à bout, on travaillait, mais on ne gagnait pas beaucoup non plus pour pouvoir vraiment vivre décemment.
En 2004, Ibou Diop a obtenu une place à l'Université technique de Berlin pour étudier les lettres modernes. Il y a trouvé des conditions d'études bien meilleures.
Quand je suis arrivé à Berlin, j'avais une chambre de 34 m², je payais 217 €. Et l'université était vraiment à 5 minutes de Marseille, de là où j'habitais. Et les frais d'inscription, c'était 217-219 € par semestre. On avait le ticket pour les transports urbains et interurbains.
À Berlin, comme dans la plupart des universités allemandes, les frais universitaires se résument à quelques centaines d'euros par an. Mais la question d'une augmentation fait toutefois régulièrement l'objet de débats passionnés. En Allemagne, l'enseignement supérieur est du ressort des Länder, les États régionaux. Le Bade-Württemberg, dans le sud-ouest, est ainsi le seul Land à imposer des frais d'inscription élevés aux étudiants étrangers qui doivent débourser 1500 euros par semestre depuis la rentrée 2017. Une mesure dénoncée par de nombreuses associations, dont l'Alliance contre les frais universitaires Aktionbündnis gegen Studiengebühren ou ABS. Kurt Stiegler en est le coordinateur.
Hintergrund waren angebliche Sparzwänge.
Il s'agissait de soi-disant mesures d'économie pour le budget de la région. Il n'y avait aucune base pédagogique. Et nous constatons actuellement que l'instauration des frais de scolarité des étudiants étrangers ont eu des effets extrêmement négatifs. Beaucoup d'étudiants étrangers quittent le Bade-Württemberg ou ne viennent pas du tout. Le nombre de candidats et le nombre d'inscriptions ont diminué.
Depuis un an, le nombre d'inscriptions d'étudiants étrangers en première année a baissé d'environ 20% selon les statistiques. La bonne réputation des universités de la région ne semble pas compenser le coût des études, ce qui n'étonne pas Kurt Stiegler.
Beaucoup d'étudiants étrangers viennent de familles qui n'ont pas les moyens de payer les frais universitaires. Il faut dire aussi que les études en Allemagne sont déjà chères en raison du coût de la vie et les étudiants doivent maintenant aussi payer, par exemple, pour des cours de langue. Ce n'est donc pas bon marché en Allemagne, mais les étudiants viennent quand même, car il n'y a pas de frais d'études.
Ibo Diop, lui, a eu de la chance de faire ses études dans une ville où la vie est globalement moins chère. Il a toutefois dû travailler jour et nuit pendant toute la durée de ses études.
Je n'avais pas eu de bourse et je n'avais pas non plus postulé parce que c'était très compliqué de comprendre les formulaires, de les remplir. J'étais seul, je n'avais pas quelqu'un qui pouvait m'aider et je n'ai pas aussi non plus allé à la rencontre de l'université pour lui demander qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bourse. Et je ne voulais pas non plus, à la fin de mes études, être obligé de payer quoi que ce soit à qui que ce soit.
Et du coup, vous avez financé vos études en travaillant?
Oui, j'ai financé mes études moi-même.
En travaillant, en faisant des petits boulots?
En travaillant pendant 30 heures par semaine, les nuits, dans un centre d'appel qui était à une heure de temps de chez moi. Donc, je travaillais les nuits et la journée, j'étais à l'université. Mais je faisais tout pour travailler plus les week-ends, c'est-à-dire jeudi, vendredi, samedi, ou bien vendredi, samedi, dimanche, les nuits, donc de 22h à 7h du matin.
L'instauration des frais universitaires dans le Bade-Württemberg devait servir de modèle à une autre région, plus à l'ouest, la Rhénanie du Nord-Westphalie. C'était en tout cas le projet de la coalition libérale conservatrice au pouvoir depuis 2017. Les présidents d'universités, en particulier d'universités techniques, n'ont pas suivi. L'Allemagne, explique Kurt Stiegler, a en effet tout intérêt à attirer ses étudiants étrangers.
La science et la recherche ne fonctionnent pas du tout sans échanges internationaux. Nous dépendons de ces échanges et c'est pourquoi nous avons besoin d'étudiants étrangers. Ils contribuent également à éliminer la pénurie de travailleurs qualifiés.
Ibo Diop, lui, fait partie des travailleurs qualifiés qui ont pu rester en Allemagne au-delà de leurs études. Aujourd'hui, il enseigne à l'université Humboldt de Berlin et a fondé une famille sénégalo-allemande.
Chaque année, l'été comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout, peu importe. On veut partir, alors ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
De l'Allemagne, nous partons pour le Brésil qui commémore tous les 20 novembre la mort du héros Zumbi dos Palmares qui luttait contre l'esclavage dans le nord-est du pays. Depuis 2003, quand une loi a rendu obligatoire l'enseignement de l'histoire et la culture afro-brésilienne dans les écoles, c'est un jour férié dans certaines villes et tout le mois de novembre est devenu le mois de la conscience noire. À Sao Paulo, la Feira Preta, la foire noire, réunit depuis 17 ans les créateurs et artistes qui défendent l'entrepreneuriat noir. Reportage au centre de la capitale économique par notre correspondante Marine Dacher.
Plus de 25 000 visiteurs ont franchi les portes de la Feira Preta, qui a réuni pendant 3 jours 130 entrepreneurs afro-brésiliens dans le centre de São Paulo. Un succès qui ne masque pas la préoccupation des Noirs qui ont vu pendant la campagne présidentielle les attaques racistes se multiplier. Le président élu, Jair Bolsonaro, a systématiquement dévalorisé les femmes, les Noirs ou encore les indigènes. Fernanda, elle, est venue en famille avec sa fille de 3 ans et elle est encore émue par ce qu'elle a entendu, même si aujourd'hui, elle tente de danser et de profiter des concerts.
Je dois avouer que le jour des résultats, j'ai fondu en larmes. On va continuer à résister, mais ce sera plus difficile encore. En plus d'être noir, nous suivons les religions des matrices africaines et subissons de nombreuses persécutions. Avec cette nouvelle politique, on est sur la défensive parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Mais nous, que certains appellent minorité, ne pensions pas en arriver là. Mais malheureusement, on y est. Les agressions contre nous ou les LGBT sont réelles, donc il faut nous protéger sans nous cacher, il faut nous unir, on ne peut plus se cacher, on l'a fait si longtemps et on a été encore plus persécutés, ça c'est le passé.
Le 20 novembre est la date à laquelle les Afro-Brésiliens tentent de se mobiliser pour se souvenir des luttes de leurs ancêtres, et notamment celle de Zumbi dos Palmares. À la fin du XVIIe siècle, Zumbi le résistant est assassiné, sa tête exhibée en place publique. Jusqu'en 2003, seule la date du 13 mai était commémorée par les Noirs, jour de la signature par la princesse Isabelle de la fin officielle de l'esclavage au Brésil en 1888, dernier pays des Amériques à abolir cette pratique. Mais pour les Noirs et Métis du Brésil, qui représentent aujourd'hui plus de 50% de la population, les inégalités sont toujours criantes. 66% des travailleurs domestiques sont Noirs ou Métis. Et parmi les 13 millions de chômeurs, résultat de la crise économique qui frappe le pays depuis 2014, 63% sont Noirs ou Métis. Gloria Maria n'a pas une minute de libre cet après-midi. Son stand de turban attire hommes et femmes en quête d'une nouvelle coiffure. Elle est membre du collectif Afro Créateur. Elle a ouvert un corner dans une boutique du chic quartier d'Ipanema à Rio de Janeiro. Mais le plus difficile pour elle, comme beaucoup d'Afro-Brésiliens, c'est l'accès au crédit, encore réservé aux riches, donc aux blancs.
Mon plus grand défi, c'est d'obtenir un prêt. On a des handicaps. Être une femme, être noire et entrepreneuse. Bien sûr, il existe des politiques pour les entrepreneurs, mais parfois elles ne visent pas les Noirs. Malheureusement, nous continuons à recevoir des salaires plus bas que les hommes et les portes ne s'ouvrent pas de la même façon. Et puis il y a une tendance à ne pas valoriser le travail artisanal. L'industrie produit en grande quantité et en comparaison, nos produits paraissent plus chers. Un bout de tissu comme celui-ci n'a pas besoin d'être un tissu cher et importé, mais il suffit à tirer une famille de la pauvreté et de la faim. Il permet aussi à une femme de lui redonner l'estime de soi dont elle a besoin, parfois parce qu'elle a perdu ses cheveux suite à une chimiothérapie ou parce qu'à force de les lisser, ses cheveux, elle les a perdus. Au début, mon négoce était lié à la beauté et à la lutte politique. Aujourd'hui, il est aussi social.
À l'entrée du marché, Monique Santos, tout sourire. Elle a donné naissance il y a moins d'un an à la marque Ayo. Et d'après elle, l'économie circulaire, le black money, est une façon efficace de valoriser non seulement la culture noire, mais aussi son esthétique. C'est le pari de cette jeune maman, venue de Rio de Janeiro pour présenter ici ses accessoires de décoration d'intérieur, des abat-jours, des coussins ou des tabliers, faits à partir de tissus africains et brésiliens.
Il existe un mouvement de consommation différentes, dont l'idée est de promouvoir le travail des entrepreneurs noirs à travers le black money, c'est-à-dire l'argent qui circule au sein de la communauté noire. Mais cette présence des tissus africains dans la décoration intérieure, c'est assez récent. Je suis persuadée que de plus en plus, les maisons brésiliennes vont valoriser ces tissus. Ici, au Brésil, ces couleurs sont devenues le symbole d'une militance, comme la marque de ceux qui, peu à peu, assument leur afro-ancestralité. Et cela suscite encore beaucoup de préjugés, vous savez. Une foire comme celle-ci n'est pas que pour consommer, c'est aussi pour éduquer le public.
On trouve aussi 3 librairies spécialisées dans les contenus racontant la grande ou petite histoire des Noirs, des contes pour enfants aux biographies ou romans écrits par des Afro-Brésiliens. Ces ouvrages reflètent à la fois la quête de lecture sur des questions de société longtemps ignorées ou encore la préoccupation de créer de nouvelles narratives pour proposer dans les écoles ou dans les foyers des héros non blancs aux petits Brésiliens. À São Paulo, Marino Dacher pour la Deutsche Welle.
Et c'est déjà la fin de ce magazine. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Et merci pour votre fidélité à la DW. La semaine prochaine, Vue d'Allemagne vous sera présentée par Hugo Flotatalon. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss.
O pan gel, o pan gel, o pan gel.